Avec près de 80 livres qui la constituent, la Bible est en réalité une bibliothèque dans laquelle on trouve tous les genres littéraires. L'épopée, la poésie, le récit ou des livres de contes, et la liste est encore longue. Certains textes nous font penser à des fables ou à des textes mythologiques. Et en effet, c'est ce qu'ils sont. Mais alors, quelle valeur ont-ils ces textes qui racontent la création du monde en 7 jours ou un déluge qui aurait submergé la terre et pu faire disparaître la totalité des êtres vivants si un dénommé Noé n'avait pas sauvé un couple de chaque espèce? Et pour d'autres textes bibliques, disons plus réalistes, sont-ils cohérents avec des faits historiques connus et avérés et qui ont laissé des traces? J'ai posé la question à Sylvain Gasser, qui nous guide dans ses podcasts. Il est religieux assomptionniste et prêtre. Il est éditeur chez Bayard et musicologue, et c'est un passionné de la Bible. Bienvenue dans le deuxième épisode de « À la découverte de la Bible », une visite guidée de la parole.
La question de l'historicité est devenue une question essentielle avec les sciences positives, les sciences historiques qui se sont développées au XIXe siècle. Ce sont d'abord les protestants qui étaient plus libres de faire ce genre de travail que les catholiques à ce moment-là, qui ont ouvert le banc, mais les philosophes et les historiens se posaient depuis longtemps la question. Prenons l'exemple qui est le plus courant, prenons le texte de la Genèse, la création du monde en 7 jours. Si vous considérez que ce qui est dit de manière très littérale, c'est ce qui s'est passé, à un moment donné, ça coince avec les sciences. Et les débats entre les darwinistes et ceux qui ne l'étaient pas, et l'Église, évidemment, nous paraissent ridicules aujourd'hui, mais c'est important parce qu'on changeait complètement de paramètres et de vision et d'accord entre ce que nous lisions et ce que nous percevions et savions de manière scientifique et assurée de notre monde. C'est cela qui a posé un grand problème. Mais de fait, quand on lit justement la Genèse, nous lisons un poème. Vous ne demandez pas à Paul Verlaine de vous expliquer la théorie quantique. Vous laissez le poète essayer de comprendre et de traduire avec les qualités intrinsèques qu'il a l'histoire de ce monde. La question par rapport à l'origine du monde, c'est comment tout cela a commencé. Au départ, vous n'avez pas le texte de la Genèse. Et quand les Juifs se mettent à raconter cela, ils ne partent pas de rien. Il y a eu des épopées de création du monde, notamment sur le déluge chez les Mésopotamiens. Il y avait des récits qui existaient. Et c'est ainsi qu'ils ont tenté de mettre en récit, de mettre en forme une histoire, ici sous la forme d'un poème, qui correspondait effectivement à la réalité ambiante qu'ils avaient. Mais il y a aussi des événements historiques qui ont eu lieu. Pharaon a bien existé, on le sait. Le roi David, il y a des traces de l'historicité et de la vie même de cet homme. Est-ce que Moïse a existé comme Monsieur Moïse? Est-ce qu'Abraham a existé? On n'en sait rien, mais il y a eu, à un moment donné, dans l'histoire, des hommes qui ont libéré un peuple, des hommes qui ont suscité une adhérence à ce Dieu unique et que petit à petit, on a raconté génération après génération. On dit que Abraham c'est 18 siècles avant la naissance du Christ. Mais 18 siècles, c'est l'an 200 et l'an 2100. Donc c'est une période immense. Mais on sait qu'on racontait et on traduisait cela. Des traces, on trouve dans la Bible des éléments historiques, mais la Bible n'est pas là pour faire le journal. Ce n'est pas les chroniques historiques de ce qui s'est passé très exactement. Tel jour, tel mois, telle année.
Par exemple, le peuple hébreu a passé une quarantaine d'années au désert. Les recherches aujourd'hui n'ont pas mis à jour la moindre trace d'un peuple qui aurait passé 40 Exactement. Années dans le désert. Ça aurait laissé des traces. Oui. Est-ce que ça discrédite les textes?
Non, ça nous oblige à être plus intelligents. Ça nous oblige à les relire autrement. Je pense que nous avons besoin de l'apport des sciences humaines, nous avons besoin de l'apport des sciences historiques pour tenter de comprendre ce qui se dit dans ces textes qui ont comme valeur historique le fait qu'un jour, ils ont été écrits, puisque nous les recevons aujourd'hui, en 2025. Donc ça, c'est très important. Alors, on a raconté l'histoire d'un peuple qui est libéré de l'esclavage en Égypte. L'Égypte, c'était la surpuissance de ce temps-là, c'est les États-Unis d'aujourd'hui. Et on y allait, les Juifs y allaient pour, dès qu'il y avait des famines, c'est l'histoire de Joseph qui est racontée dans la Genèse, on y allait, on cherchait du travail, il y avait de la nourriture, le Nil était un fleuve abondant et très fécond, donc c'était vraiment le lieu où tout le monde pouvait se retrouver. Il y a eu des moments où ce peuple-là a été tenu en esclavage, c'est-à-dire c'était un peu les immigrés de l'époque, c'était les travaux ingrats qu'on connaît nous aussi dans notre société, les Juifs ont eu ce genre de travail. Et il y a eu une libération. Il s'est passé un événement où les Juifs ont quitté l'Égypte et on sait que de l'Égypte en terre de Canaan, qui deviendra donc la terre promise, il y a eu forcément une traversée du désert. On le raconte. sous la forme d'une épopée historique, comme une errance. Mais cette errance, elle dit aussi fondamentalement comment le peuple se percevait, comme un peuple finalement qui ne cesse de bouger, qui a un Dieu qui ne cesse de le déplacer. Et c'était déjà l'histoire d'Abraham qui, lui, était de son propre chef allé en Égypte et qui se fait renvoyer parce que Dieu n'avait pas ce projet pour lui.
Mais alors, est-ce qu'on peut parler de textes mythiques, de mythes ?
Oui, on peut parler évidemment de mythes.
Et c'est pas
le problème, c'est que nous considérons
péjoratif.
C'est ça le problème. C'est-à-dire que le problème, c'est pas eux, c'est nous. C'est-à-dire que nous pensons que le mythe, ce n'est pas vrai, ça ne s'est pas passé comme ça, donc c'est faux, donc ce sont des craques finalement ce qu'on vous raconte. Et pas du tout. Si nous faisions la relecture de notre propre vie. Nous avons vécu dans notre vie des moments très heureux, des moments étonnants, des moments qui nous ont transformés. Une rencontre qui fait que d'un coup, la vie ne sera plus jamais la même. Au moment même, ça s'est passé de manière souvent banale, vous rencontrez quelqu'un qui vous parle, hop, d'un coup on a un projet et on le met en place. 20 ans après, ce projet a pris une telle ampleur, comment vous allez raconter cette rencontre ? Un jour, j'étais seul, j'étais désœuvré et je ne sais plus trop où aller. Et d'un coup, alors que je ne m'y attendais pas, au détour d'un chemin ou dans un café ou lors d'un mariage, un apéritif, je rencontre quelqu'un qui me dit une parole, ça marche entre nous et une aventure va démarrer. Vous allez amplifier cela. Est-ce que je détourne la vérité ? Pas du tout. Je la raconte de telle manière à ce que ça donne sens non seulement à mon passé, je mets de la forme dans mon histoire et ça donne sens aussi à l'œuvre que je vis aujourd'hui. Pour un peuple hébreu, j'essaie de comprendre... Comment cela se fait-il que nous soyons dans cette terre que Dieu nous a donnée ? Donc on va raconter une grande histoire, ben oui, cette terre, il a fallu la gagner, il a fallu la conquérir. Et le livre de Josué qui pose beaucoup de problèmes aussi, puisqu'il y a beaucoup de violences qui sont suscitées, notamment au nom de Dieu. Mais c'est aussi une manière de dire, voilà comment nous sommes entrés dans cette terre. C'est pas qu'on refasse l'histoire, on la remet en forme pour donner un sens à notre vie aujourd'hui.
Ça pose la question de la vérité. Comment est-ce qu'il faut entendre ce mot de vérité ? Quelle vérité ?
Le problème de la vérité, c'est très complexe. La vérité est l'adéquation du beau et du réel selon une définition très ancienne. Je dirais plutôt que la vérité ne peut se comprendre qu'en partage, que sous la forme d'un partage. C'est-à-dire, elle prend sens pour moi à partir du moment où je n'exclus pas ce qui existe à côté. Je ne dis pas que ce qui est à côté sera faux et donc sera condamnable. Le problème, c'est que nous allons mettre un jugement sur une réalité qui ne l'attend pas. Si je dis que 2 plus 2 égale 4, est-ce que c'est de la vérité ça ou est-ce que c'est un fait objectif ? C'est une logique mathématique qui fait que 2 plus 2 égale 4 et n'égale pas 3.
Mais est-ce que la Bible dit la vérité du coup ?
La Bible nous ouvre un chemin de vérité. Et je fais exprès de dire cela parce que le Christ lui-même dira « Je suis la vérité, la vie, le chemin, la voie ». Donc c'est une manière de dire que la vérité se cherche, elle est en partage. Finalement, j'ai l'impression que la vérité, c'est un peu ce soleil qui est devant nous, qui nous attire, ou mieux, cette ligne d'horizon qui nous aimante, qui nous fait avancer, qui nous oblige à comprendre qui je suis.
Et c'est cette... recherche de la vérité, c'est ce chemin finalement qui nous autorise, qui nous permet d'interpréter les textes, les travailler et qui a ouvert la voie à l'exégèse.
Il y a obligation d'interpréter ce genre de texte. Je dirais que toute littérature qui fonde une culture, alors il y a la Bible bien sûr, on pourrait parler de la même manière de l'Iliade et l'Odyssée, on pourrait parler de ces grands textes qui fondent une culture comme Don Quichotte de Cervantes par exemple, tout espagnol a lu cela, ça donne quelque chose, ça dit quelque chose de ce peuple-là. Alors peut-être le statut n'est pas tout à fait le même, mais ça fonde une culture, ces textes, on y vient, on y revient en permanence. Pourquoi on y revient ? C'est parce qu'on n'a pas fini d'en faire le tour, ni le détour, on n'a pas fini d'en scruter le sens, et cette recherche de sens, elle est quasiment infinie. Par exemple, les couples que j'accompagne au mariage, dans le chemin que je leur propose, on a une soirée autour d'un texte biblique, très souvent, je leur propose la parabole des talents. Je pense, sans exagérer, que j'ai travaillé plus de 300 fois ce texte. Il ne m'épuise pas, parce qu'il est inépuisable. C'est un texte qui ne cesse de susciter en moi une recherche, et cette recherche de sens ne peut se faire tout seul. Saint Grégoire le Grand dira au VIe siècle, l'écriture grandit avec ses lecteurs. Elle n'est rien que du parchemin et de l'encre, avec un calame qui aura gravé ces lettres-là. Elle n'est rien s'il n'y a pas des lecteurs qui la lisent et qui tente de comprendre ce qui se passe. Et si tous les deux, maintenant, nous ouvrions la parabole des talents et que nous tentions de la comprendre, nous verrions qu'il n'y a pas de sens univoque, mais qu'il y a un sens en partage. Eh bien, c'est ce travail qui est requis, ne serait-ce que pour honorer notre intelligence, qui est un chemin, qui n'est jamais un aboutissement, et qui nous oblige à toujours chercher, chercher, et inlassablement chercher. Les Juifs, par exemple, dans leur tradition spirituelle, il y a une histoire qui dit qu'un Juif ne meurt pas tant qu'il étudie la Torah. Donc, l'histoire juive est la suivante, c'est qu'il y a le roi David qui ne veut pas mourir, ce grand roi, il veut avoir l'immortalité, donc il a compris que tant qu'il étudie la Torah, il ne meurt pas. Si ce n'est qu'à un moment donné, Dieu a comme envie de le rappeler auprès de lui. Et donc un soir, en pleine nuit, il fait intervenir son ange, comme d'habitude, et David est à sa table, en train de scruter les Écritures et de les étudier. Et puis soudain, il y a l'ange qui lui dit « David !» David se retourne et meurt, car à cette seconde précise, il n'étudiait pas la Torah. C'est une très belle histoire, mais elle dit exactement la place que nous devons avoir face à un tel texte qui est empreint de respect, mais qui est enceinte pour le texte comme pour moi, qui vais mettre à contribution mes connaissances, ma propre vie, mon histoire, à l'aune de ce que je lis dans le texte biblique.
Vous avez dit que certains grands textes, et vous avez cité Don Quichotte de Cervantes, disent quelque chose d'une épopée et disent quelque chose de l'homme, de l'humanité aussi. Pourquoi ce n'est pas au même niveau ? Pourquoi la Bible a un statut particulier ? Puisque certaines personnes disent que après la lecture de Balzac, de Dostoïevski ou d'un autre grand auteur, leur vie a été bouleversée.
Et c'est tout à fait juste. Vous avez cité Balzac, mais moi, Baudelaire m'a bouleversé, Proust aussi, des grands auteurs de la littérature m'ont bouleversé, ont transformé ma vision du monde, c'est évident. La Bible, elle a un statut particulier parce qu'elle nous renvoie à la connaissance d'un Dieu. Donc elle fonderait ce qu'on appelle communément une religion. Enfin, ce terme-là est très complexe à utiliser, mais disons cela, elle renvoie à nos croyances. Elle élève notre esprit qui suscite plus de questions que de réponses. Donc oui, je peux lire l'épopée picaresque de Don Quichotte, mais finalement, au terme de cette épopée, ça dit quelque chose du sentiment espagnol, ça dit quelque chose d'un anti-héros finalement, et ça dit quelque chose aussi de comment le peuple se retrouve à travers ce personnage. Mais je répète, la Bible, c'est au moins 8 siècles d'écriture, donc c'est un très long temps. Le peuple hébreu des origines est celui qui devient déjà les envoyés, les premiers chrétiens, qui sont des judo-chrétiens et des païens déjà. On voit bien que d'un coup, les frontières saute et l'universalisme se met en place, qui était un bouleversement aussi à ce moment-là, au moment de l'Empire romain. Donc, on ne peut pas mettre au même niveau l'Iliade et l'Odyssée, Don Quichotte et la Bible, parce que ce ne sont pas les mêmes berceaux de culture qui les ont façonnés, mais en même temps, je peux les mettre à niveau parce que ce sont des textes sur lesquels je peux revenir pour tenter de savoir qui je suis. Mais là, on est bien dans la recherche d'un peuple qui, très humblement, et en même temps avec une grande fierté, a tenté de se comprendre face à ce Dieu qui était un Dieu privilégié, devenu le Dieu unique, le Dieu des pères d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de nos pères, le Dieu proclamé par les prophètes, jusqu'à ce que nous, chrétiens, nous reconnaissions le Dieu Père révélé en son Fils, Jésus le Christ.
C'est la fin du deuxième épisode de ce podcast. Je vous retrouve très bientôt avec Sylvain Gasser, et je lui demanderai s'il y a des réponses aux grandes questions existentielles dans la Bible. À bientôt !